Que la paix de Dieu soit sur chacune de nos vies. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir. Ça va, je ne vous ai pas saturé. Vous en demandez encore? Oui. Ce soir, comme c'était prévu, nous allons nous arrêter sur le cinquième aspect de notre réflexion. Image de soi, s'accepter, s'aimer, retrouver son identité. Alors pendant que vous préparez vos papiers, vos notes, que la technique affine, c'est bon, vous êtes des champions. Concernant les dossiers maison de retraite, le Seigneur a placé sur nos cœurs depuis des années l'accueil des jeunes, l'accueil des enfants, l'accueil de jeunes en difficulté, puisqu'on a fait de la réinsertion, mais aussi l'accueil de personnes âgées, valides, semi-valides, déficients mentaux, vieillissants, et tout ce qui est apparenté à la déambulation, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Nous avons d'ailleurs un projet assez important d'extension parce qu'il y a d'importantes demandes. Nous accueillons tous ceux qui ont besoin, sans distinction, parce que je peux vous dire que beaucoup ont pu rencontrer le Seigneur sur leur cheminement. Certains passent un tiers de leur vie à la maison de retraite. 60 ans, ce n'est pas la fin, mais 60 ans, c'est un bon départ. Oui ?
Oui.
Voilà. Donc, M. Gault peut transmettre à ceux qui le désireraient des dossiers pour vous informer. Ce n'est pas une question de publicité, mais c'est surtout que vous soyez informés qu'il y a une maison qui accueille. Il y a 3 moments spirituels dans la semaine, mais chacun, on a un lieu de prière, chacun peut venir se recueillir quand il veut. Voilà, ceci étant dit, nous nous arrêtons ce soir sur l'image de soi. Je pense qu'on va pouvoir voir le plan. Oui, voilà, formidable. Donc, ce soir, on va tout d'abord faire un constat du mal-être, le mépris, le mal-être, la confusion. Puis on fera comme d'habitude quelques explications pour clarifier et pour aussi relativiser certaines choses. Conséquences, réactions, comme je le fais chaque soir ou dans la journée comme dimanche, des conseils pratiques, comment améliorer l'image de soi. On parlera aussi d'un autre miroir. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un miroir. Ça fait combien de temps que vous vous êtes regardé dans le miroir ? Il n'y a pas longtemps. Bon. Et puis le triomphe de l'amour, c'est comme ça que j'ai, plutôt que de vous parler de guérison et de promesses, j'ai plutôt préféré ce soir parler du triomphe de l'amour. Oui ? Et la conclusion, là, je pense que certains vont faire ouf. Le programme vous convient ? Oui, maintenant vous dites oui, c'est bien. Voilà, image de soi, difficulté à s'accepter, à s'aimer, à trouver son identité, ce n'est pas le genre de sujet traité habituellement. Or, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le « comme toi-même » a été souvent interprété « comme tu t'aimes bien, c'est obligé que tu aimes bien l'autre ». Problème, c'est pas sûr qu'on s'aime comme on l'entend. Donc, nous allons essayer d'y réfléchir. Tout d'abord, un texte de l'Écriture dans le livre des Proverbes. Je n'ai pas noté la référence. Oui, Proverbes, chapitre 12, verset 18. Je pense que c'est très important de souligner ce texte. Tel parle légèrement, certaines versions disent tel est bavard, et blesse comme la pointe d'une épée. Mais le langage des sages apporte la guérison. Il est des situations, on a parlé du stress, on a parlé de l'angoisse, on a parlé de la dépression, de la solitude, ce soit des problèmes d'identité. Et parfois, on commet des erreurs dans notre élan spirituel, dans notre bonne volonté de faire, et puis on peut devenir des bavards. Non. Oui. Mais la langue, dit la version Sommer, ou le langage des sages, apporte la guérison. Et je dis, Seigneur, même si j'ai beaucoup de choses à vous dire, donne-moi le mot juste, la parole qui va panser les plaies et apporter un baume de guérison, non seulement pour nous ce soir, mais qu'elle soit dans nos bouches pour faire du bien aux autres. Amen. Job, s'il en est un qui connaît la souffrance, dira « Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. » Et puis, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Dans l'épreuve, la difficulté remise en question de l'existence. Je ne suis qu'un souffle. Ces moments terribles où Élie est arrivé en disant « Je préfère la mort ». Et que d'hommes, de femmes, d'enfants, d'adolescents arrivent à ce carrefour. Une remise en cause de l'importance de son existence. Je vais rappeler, juste en flash, les éléments des donateurs de la solitude. Vous vous rappelez, hier c'était flou, mais vous n'aviez pas les bonnes lunettes. Je pense que ce soir, on devrait avoir les bonnes lunettes. Juste après, voilà. C'est un manque, une frustration. C'est une insatisfaction dans la pyramide qu'on avait vue ensemble qui déclenche, excusez-moi, des conflits, des révoltes. Là, dès le départ, une solution. Ou on rentre dans le conflit, ou il y a une démarche d'intercession. Vous vous rappelez hier soir, il y a toujours le choix. Tout être humain a toujours le choix. Puis, si on arrive au conflit, à la révolte, alors quand je parle de conflit, c'est pas forcément conflit extérieur. Il y a des gens qui pensent, qui donnent l'impression d'être paisibles, mais ça bouillonne à l'intérieur. Et quand la cocotte va se mettre à siffler, je vous promets que ça va faire du bruit. Révolte intérieure. Conséquence, solitude, où là, il y a une démarche de résolution. C'est-à-dire qu'il y a toujours, le Seigneur nous laisse toujours une possibilité d'évacuer le fameux sous-sol. Vous vous rappelez du sous-sol? Oui. Alors, je le dis gentiment, pas d'évacuer le sous-sol dans le sous-sol de l'autre. Il y a des sous-sols qui communiquent. Je dis ça dans le cadre d'un foyer, d'une famille. Ou plutôt que de prendre ses responsabilités, on culpabilise l'autre. Ça semble décharger, mais ça ne règle rien. Je reviens aussi en flash sur la pyramide qui, d'une manière hiérarchique, fait l'inventaire des besoins, depuis les besoins physiques, besoin de relations et d'amour, besoin d'appartenance, besoin d'être respecté, d'être reconnu, puis besoin de s'accomplir. Toute une dimension que Dieu a prévue. Alors je dis cela parce que quand on parle du mépris de soi, parfois on se dit « oui, mais est-ce que le Seigneur ne nous a pas demandé ?» d'avoir de la haine pour notre propre vie. Alors, on va y revenir à cette haine dans ce chapitre que j'ai intitulé « Confusion ». Mais j'ai noté, alors que je méditais cet après-midi, je pensais à vous, avec plaisir, ce texte de Timothée, 1 Timothée 6, 6, j'avais jamais été interpellé par ce texte, comme quoi, on ne sait pas tout. C'est une grande source de bien, de gain, que la piété.
Alléluia.
À condition qu'il y ait le contentement avec. Et j'étais frappé de voir que Paul dit, s'il n'y a pas le vêtement, la nourriture et tout ce qui est nécessaire, vous avez beau parler de votre piété, s'il n'y a pas le contentement. J'avais jamais remarqué, vous peut-être, mais moi, ça m'a frappé. Quand Paul lui-même dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, c'est pas parce qu'il a une forme de masochisme spirituel, je souffre, je suis heureux, parce qu'heureux les persécutés. C'est pas cela. C'est se tromper sur ce que dit l'Écriture. Mais Dieu a mis une paix, en sorte que aucune difficulté ne va au-delà de ses forces, non pas parce que Dieu répond à tout d'une manière magique, mais si Dieu ne répond pas d'une manière, il répondra toujours d'une autre. Par la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et notre pensée. Mépris. Quelle image avons-nous de nous-mêmes? Quelle image les autres nous renvoient? La vie, le passé, notre enfance. Qu'est-ce qui est resté dans le sous-sol? J'y reviens. Oh, c'est parfois des simples phrases, des moqueries. Vous savez, ce genre de phrase où les adolescents se plaisent à l'égard des filles comme si ça les élevait. La grande perche, parlant d'une jeune fille qui est grande. « Oh, t'as vu tes yeux ?» Et ces petites choses sont amplifiées par ce que disent parfois les parents. « Bah oui, t'es une grande perche. » Le professeur. Des choses, alors, je ne voudrais pas que ce soit quelqu'un qui a entendu ça dit « ça y est, il est le quatrième à m'enfoncer ». Simplement parce que cette amorce semble innocente. Mais elle va prendre une telle importance dans le sous-sol qu'elle va remonter au rez-de-chaussée dans le conscient et faire mal à la période de l'adulte. C'est très important. Vous savez, c'est pas pour rien que le psy, devant les situations difficiles, fait appel à l'enfance, et en particulier au référent « Parlez-moi de votre père ». Ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qui a été rupture? Et qui a provoqué une remise en cause de cette paix et de cette acceptation de soi-même? Je m'accepte. Sinon, c'est je ne suis rien, je ne fais rien de bien, tu n'y arriveras jamais et je n'y arriverai jamais. Un jour, un psychologue chrétien a accueilli une jeune fille. Quand elle est arrivée, lui, ancien, a vu cette jeune fille jeune qui rentrait et puis il s'est dit, quelle belle jeune fille. Quand on est beau, on est beau. Il ne faut pas avoir honte. Oui, je suis beau, moi. Ça vous fait sourire? Ne m'envoyez pas une petite phrase que je risque de voir me perturber dans 30, 40 ou 50 ans. Elle rentre, elle exprime pourquoi elle est en dépression et elle dit « Je me sens laide, affreuse, parce que je suis trop grande ». C'est pour ça que j'insistais sur cette expression. On m'appelle, depuis ma tendre enfance, la grande perche. J'ai du mépris pour mon corps. Elle était dure avec elle-même, comme si sa vie ne valait rien. Elle a confessé, dit au psy, qu'elle en était arrivée à être agressive à l'égard des autres, surtout à l'égard de ceux qui l'aiment. Ses parents, sa famille, ses proches. Elle en est arrivée à refuser tout compliment, à ne plus oser se regarder dans la glace. Elle s'est isolée, elle était en plein découragement, en pleine dépression. Mais est-ce possible? C'est possible. Ce qui a marqué son enfance s'est trouvé au fil du cheminement de sa vie amplifié. Et voici qu'elle se méprisait, voici qu'elle ne s'acceptait pas. Et le psy disait dans sa tête, pourtant, elle est belle. Quelle image avons-nous de nous alors que tous les autres pourraient nous dire, mais c'est pas possible. Et même si les autres nous disent, c'est pas possible, ils disent ça pour me faire plaisir, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que je ne suis pas belle. Parce que la vision est faussée sur notre état et nous avons une énorme difficulté à nous connaître nous-mêmes. Ô Dieu, apprends-moi à me connaître. Apprends-moi à me connaître. Il y avait un jour un repas chez des chrétiens, parce que le pasteur était invité, et le pasteur ne peut pas aller manger autre part que chez des chrétiens. Et au cours du repas, le père présente ses enfants. Monsieur le pasteur, Francis, brillant dans les études, c'est un garçon qui a de l'avenir. La petite Julie, c'est notre merveille. Elle joue de la musique, si vous saviez. Ah, du violoncelle. Et lui, c'est notre catastrophe. Et la maman de répondre, chérie, non, pas ta catastrophe. La honte de la famille, tu veux dire. Heureusement que c'est un pasteur qui a entendu ça. Ce que vous pourriez dire, sur Roussel, vous amplifiez un peu. Non. Que pensez-vous qu'un jeune homme, on ne sait même pas son prénom, enregistre dans sa vie, et pour peu, pour se faire remarquer qu'il fasse quelques bêtises, alors la catastrophe devient réalité, ce qu'il m'en dit maintenant, je le crois. Je le crois. Mais rappelez-vous, David, quand Samuel est venu dans la maison d'Isaïe, quand il est arrivé pour oindre le roi, il s'est dit, il faut que je trouve un bel homme. Oh, il a vu Eliab, 2,73 m. Enfin, c'était 5 bonnes coudées, donc c'était à peu près ça. Hein, parce qu'on regardait où il a trouvé ça. Tu as dit non. L'autre, il est allé voir le suivant, Abinadab. Puis il a passé tous les fils comme ça. Mais alors, c'est à ce moment-là que Samuel a dit, mais ils sont tous là? Ah non, c'est vrai, on oubliait. Il y a le ptio là, dans les prés. Le ptio dans les prés, là. Le petit David. Et Dieu va dire quelque chose de très important. L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde. Il regarde à ton cœur ce soir. Et voudrait te donner une autre vision de ta vie. Il voudrait que tu apprennes à te connaître, que tu arrêtes de te dévaloriser, de te diminuer, de te culpabiliser, de te détruire. Dieu est plus grand que notre cœur. Dites-le avec moi. Dieu est plus grand que notre cœur. Non, pas votre, mon cœur. Dites mon. Dis, attends, il regarde le voisin. Dieu est plus grand que ton cœur. Et le mari qui fait toi, dis-le. Dieu est plus grand que mon cœur. Si mon cœur me condamne, lui ne me condamne pas. Parce qu'il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous délivrer. Que son nom soit béni. Amen. Et voici que, malgré les évidences, et parfois quand on veut encourager quelqu'un, on lui dit, mais c'est pas vrai, je sais pas comment faire pour te le dire. Mais non, c'est même pas la peine de secouer la personne. Il y a autre chose à faire. Il faut qu'il y ait l'action de Dieu qui amène une autre vision de notre vie afin de transformer cette estime de soi. Que le Seigneur nous aide. 15 stars à Hollywood ont fait l'objet d'une enquête sérieuse et assez récente. C'était des stars qui étaient l'emblème de la beauté, star du cinéma, et qui était enviée de toutes les jeunes filles qui pouvaient regarder les films. Ah, j'aimerais bien être comme, vous savez. Et puis, dans cette enquête, comment vous vous trouvez, comment vous trouvez votre visage, comment vous trouvez votre corps, et s'il y avait une chose à changer, quelle serait cette chose? On a constaté dans toutes les enquêtes, les 15 se méprisaient et faisaient toute une liste de choses à changer parce qu'elles ne s'acceptaient pas. Elles étaient le modèle pour les autres, mais voici que pour elles, il y avait l'éternelle insatisfaction. C'est mon fils aîné, il avait peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Nous sommes allés chez des chrétiens qui étaient pâtissiers, à ne jamais faire. On a parlé, on a prié, puis on est repassé par le magasin devant la vitrine. Et le frère dit à mon fils, « Tu veux un gâteau ?»« Oui !» C'est fou ce qu'on connaît bien des mots. Et il lui donne. Et moi, qu'est-ce qu'on dit? Et puis voilà, je lui dis, qu'est-ce qu'on dit? Et il regarde le frère, il fait, encore? Comment voulez-vous qu'à 3 ans, on soit insatisfait et qu'on arrive à l'âge adulte et on est comme les filles de la sangsue? Donne. L'insatisfaction. Et on ne se rend pas compte que on est dans le moule du monde qui est en perpétuelle insatisfaction. Et quoi vous fassiez, ils ne savent plus apprécier. Seigneur, apprends-moi et réapprends-moi à apprécier, comme Paul, l'état où je suis. Tu m'as tellement comblé. Tu as fait de moi ton enfant, je sais que tu ne m'abandonneras jamais, tu me tiens dans ta main, je suis à l'ombre de tes ailes, tu veilles sur ma vie et quels que soient les drames du monde entier, je sais que tu me prendras pour l'éternité. Qui peut dire ça? Est-ce que vous mesurez ce privilège? Alors c'est vrai, Paul ajoute, les quelques vicissitudes de la vie, les quelques problèmes sont rien par rapport à la gloire à venir. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide. Parce que sinon, nous allons cultiver ce mal-être pour des insatisfactions qui ne sont plus dans les besoins élémentaires. Parce qu'à un moment donné, ce ne sont plus des besoins que nous réclamons, mais des caprices, des désirs. L'enfant désire manger 14 gâteaux, mais je pense qu'avec un, ça répond à ses besoins. Attention de ne pas tomber dans l'excès de désirs qui ne répondent plus à des besoins. Quelques symptômes, besoin excessif d'approbation. Alors, n'essayez pas de vous pincer en disant « ça y est, ça encore pour moi, c'est encore pour moi ». Il y en avait qui avaient des bleus sur toute la main hier soir. Besoin excessif d'approbation, crainte d'être désapprouvé, d'échouer, culpabilité, présente et omniprésente, reproche sur soi, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est raté. Moi, quand je vais manger chez certains, ils me regardent, j'ai pas encore mis la fourchette à la bouche qui me dit « c'est pas bon, hein ». C'est toujours, ça sera toujours mauvais. Sentiment d'infériorité, agressivité, renfermement sur soi, renfermement sur le travail, l'alcool, la drogue, etc. Stop. J'avais envie de le crier, mais je voudrais le répéter. Stop. Chaque être humain, est responsable de ses actes et de ses choix. Et il faut que nous comprenions ce soir, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le schéma, il y a toujours un moyen de réagir. Rien n'est magique, mais le Seigneur ne rentrera pas si on n'ouvre pas la porte. Il a dit, j'entrerai, je souperai avec toi. Il a dit qu'il ferait des choses extraordinaires, au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Il l'a dit, et je le crois. Je le crois parce que le prix qu'il a payé pour nous délivrer est tellement énorme que je ne peux pas croire qu'il oubliait quelque chose. Et quand tu as dit, Seigneur, tout est accompli, j'étais dans la liste. Mon problème aussi, tu t'en es chargé et tu as tout accompli. Alors Seigneur, ce n'est pas après toi que j'attends. C'est toi qui attends après moi. Ah, vous pouvez dire entrer, si vous n'avez pas enlevé le verrou. Et qu'il ouvre la porte. Il y a des choses simples à faire, que le Seigneur nous aide. Trois phases. La pauvre se dit où j'en suis. Trois phases. Un, s'accepter. Deux, oser s'affirmer, prendre position, voire confesser. Si tu confesses de ta bouche, vous ne connaissez pas ce texte, il est pas mal, hein? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, puis après, si tu crois dans ton cœur, mais non, il faut croire d'abord. Ben, le Seigneur dit, si tu confesses de ta bouche, nécessité de verbaliser, on revient toujours à cela, alors je vais apprendre à m'aimer moi-même. Regardez ce schéma, il est simple. S'accepter, Seigneur, j'accepte la situation. Je veux confesser ta victoire. Confesser mes rébellions, mes contestations, mon mauvais caractère, oui, parce que là, il faut le dire deux, trois fois. Et comme on se disait avec Gérard souvent, et je m'aime bien. Alors, nous pourrons accepter l'autre tel qu'il est. Alors, nous pourrons lui permettre de s'affirmer dans ce qu'il a envie de dire. Alors, nous pourrons l'aimer. Quel message extraordinaire pour le couple. Ah oui, il faut que tu changes ça. Ah non, il faut que tu changes ça. Nous, on voudrait que tous les autres, ils changent tout. Ta manière de faire. Je commence à m'accepter. Je commence par affirmer ma victoire. Par m'aimer. Et j'apprendrai à aimer l'autre tel qu'il est. Et tel qu'il deviendra au fil des années. Amen. Alors si j'ai eu peur tout à l'heure, sur la clé USB, il y a les photos de famille. Si vous m'aviez vu quand j'étais jeune. Eh oui, on change. Mais quelle grâce dans un couple de toujours s'aimer. Quelle grâce de voir que l'amour ne s'est pas affaibli, mais que l'amour a grandi. Quelle grâce. Alors je ne dis pas ça parce que c'est moi. Je dis ça parce que dans le domaine spirituel, c'est pareil. Quand la lassitude vient, quand on n'accepte plus sa vie, on ne s'accepte plus, il y a à un moment donné une rupture dans l'amour que nous avons pour Dieu. Dans une forme de lassitude. Nous avons besoin de nous accepter, de devenir acteurs et non spectateurs. Amen. Pardonnez-moi, mais sur la montagne, il fait chaud là. Alors, on en arrive au point confusion. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 25, Jean 12, 25, il est dit, et vous connaissez ce texte, d'ailleurs certains me l'ont cité il y a quelques jours, comme pour dire, comment dire il faut s'aimer alors que le Seigneur a dit qu'il fallait se haïr. Il faut savoir. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est, du verbe haïr, sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Amen. Moi, je n'ai pas de problème avec ce texte. Et je m'aime bien. Ah, vous me regardez. Ce verset 25 est en relation avec le verset 24. Là, jusqu'à maintenant, je ne me suis pas trop cassé la tête. Mais de mémoire, vous vous souvenez que si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Et rappelez-vous, ça ne voulait pas dire « est détruit », mais si l'enveloppe qui deviendra du son ne craque, si cette enveloppe ne craque, alors le germe de vie ne pourra pas jaillir. Vous êtes d'accord avec moi? En fin de compte, Dieu est en train de dire « là, tu es mort dans ta vieille nature, tu es mort à cause de tes prétentions, ton orgueil, ta fierté, ta nature. » Mais je voudrais te donner une dimension spirituelle, tu vas voir, qui va t'épanouir. Tu seras encore plus beau. Voilà ce que ça veut dire. Et lorsque le Seigneur dit « s'il n'y a pas de la haine pour les œuvres de la chair, pour les convoitises du monde, mais pas pour ce que Dieu a créé qui est beau, et comme David dit, je suis, et je te loue pour cela, une nature merveilleuse, un chef-d'œuvre. » Ah, je vous fais travailler ce soir. Seigneur, avec moi, vous me dites, Seigneur, on est tous des chefs-d'œuvre. Gérard, viens au secours. Il prend votre défense. Il y a confusion entre l'amour propre et l'acceptation de soi. L'amour propre, c'est fierté, orgueil, égoïsme, propre justice, apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Typique des œuvres de la chair. C'est clair, c'est net. Propre justice. C'était les 99 qui étaient restés dans la bergerie. Je cherche mon frère. Propre juste. Ça, c'est l'amour propre. Mais l'acceptation de soi, c'est en tant que créature de Dieu, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Et je pourrais vous citer des textes. Vous savez, j'ai connu une période, je pense qu'elle est passée, mais une période où sous prétexte de sanctification, il fallait notamment nos épouses, les femmes, les jeunes filles, soient vêtues d'une manière limite du lamentable sous prétexte de sanctification. Et je dis que c'est pas normal que nos sœurs perdent toute la beauté de leur féminité, parce que ça fait partie de la beauté. Je crois qu'il y a en tout un équilibre, mais on est tombé parfois dans la culture du mépris et de l'humiliation. Dieu veut qu'il y ait cette beauté. Non pas se parer, c'est une nuance, mais la beauté de ce qui fait l'homme, de ce qui fait la femme. Ézéchiel dit, chapitre 3, verset 15, ouais, mais c'est bon, c'est bon. C'est bien. Hein. C'est moi qui ferai paître mes brebis. Si vous avez le temps, regardez le contexte dans. Parce que c'était dans un contexte où ceux qui avaient méprisé les brebis. Et je ne vous dis pas, là, le prophète, il a été clair. Hein. Mais Dieu dit c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. Et là, notez bien. Les verbes et les états, je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je prendrai soin et panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Seigneur, mais ce n'est pas pour Israël que tu dis ça. Je suis le bon berger. Et je ne manquerai, dit le Seigneur à ses brebis, tu ne manqueras de rien. J'aimerais vous faire un petit tableau dans les explications. Ah, formidable. Un petit tableau. Il y a dans, vous me suivez toujours, hein, il y a dans notre nature, et pour ceux qui ne peuvent pas voir le tableau, il y a dans notre vie, d'une manière horizontale, des choses qui nous concernent dans notre être intérieur, puis des choses qui se traduisent dans la réalité de la vie à l'extérieur. Il y a tout d'abord notre vie personnelle avec ce qu'on appelle le rôle de cette vie personnelle. Puis il y a notre cheminement de vie, notre fonction, ou ce que nous sommes en tant que chrétiens, sauvés pour servir. Donc c'est une fonction. On passe à la deuxième étape, toujours le niveau haut, vie personnelle, le niveau bas, la vie publique, et on voit que ça touche la personne, la vie personnelle touche la personne, alors que la vie publique touche les actes. Vous direz, pourquoi il nous fait ça ? Attendez. Quand ça touche l'être, il y a une dimension prioritaire d'intérêt personnel. Quand ça touche les autres, ce sont les intérêts collectifs de la communion fraternelle. Mais entre nous, on a beau être consacré, il y a toujours les intérêts globaux, la communion fraternelle, et il y a toujours des intérêts personnels. Il ne faut pas rêver. Et puis, il y a le comportement affectif qui est relié avec la personne et le comportement social. Alors pourquoi j'explique cela ? Imaginez que j'ai un ami, un super ami, que je ne nommerai pas, et je lui ai demandé de me faire un travail. Et ce qu'il me fait ne correspond pas à ce que je lui ai demandé. Si je lui dis « ce que tu as fait ne correspond pas et je ne peux pas le considérer comme acquis, mais comme nul, donc je suis dans le cadre des actes à corriger. » Mais si je dis à mon ami « tu es nul », là je touche la personne. Et là, le comportement affectif, il ne va pas tarder à réagir, puisque c'est ça, je ne fais plus rien. Nous devons corriger les actes et être respectueux de la personne. Parce que nos réactions dépendent de la manière dont nous faisons de la correction. Nous corrigeons nos actes, nous nous trompons. Regardez Jésus, il aime le pécheur, la personne. Et il dénonce le péché, les actes. Il accueille cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, mais il n'approuve en rien le péché, va et ne pêche plus. Correction des actes. Regardez les religieux. Eux, il faut supprimer, lapider la personne. Puis on a trouvé un bon texte dans la Bible. Selon la loi, il faut le faire. Voyez la différence. Et il est important, quand nous voulons accompagner, aider ou s'aider soi-même, que nous respections, que nous acceptions la personne, ce sont les actes qu'il faut corriger. Combien de fois nous nous sommes dit « je suis nul ». Non, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit est nul et je veux le confesser. Je vais réparer. Parce que tant qu'on dit « je suis nul », on se diminue et on ne règle rien. Et ça débouche sur deux verbes, le verbe « être » et le verbe « avoir » ou « faire », l'action. Et tant que nous touchons à la personne, c'est le verbe « être ». Et on dit « je suis nul ». Et souvent, je dis à ceux avec qui je partage, n'utilise pas le verbe « être » en disant « je suis nul », utilise le verbe « avoir » « j'annule ». Est-ce que vous me suivez ? Regardez l'école. Si je m'applique ce simple tableau, je vais avoir un sérieux travail chaque fois que je me démolis. Mais si je commence à travailler sur l'acceptation de ma personne en corrigeant les actes, je vais apprendre à m'aimer. Et si je le fais pour moi, quel respect j'aurai pour mon frère, parce que je le respecterai en tant que frère, et j'aurai la liberté de lui dire, mon frère, ce que tu as dit, ce que tu as fait, c'est pas bien, mais je t'aime. Quelle richesse quand un papa dit à son fils, je t'aime, mon fils, mais ce que tu as fait, je ne l'accepte pas. Mais nous ne pourrons pas faire ce travail à l'égard des autres s'il n'y a pas cette discipline sur notre propre vie. Amen. Cherchez pas ce schéma, il n'est pas dans 1 Corinthiens, mais qu'il reste dans votre mémoire, afin que nous puissions apprendre à nous respecter et à respecter les autres. Ceci étant dit, j'aimerais que nous ayons une réflexion sur nos pensées. Vous savez, ces pensées qui sont au rez-de-chaussée de notre vie et qui, nos pensées, sont la première source de nos comportements. Action, réaction. Je pense et clac. Et ça va vite parfois. Donc, le problème, ce n'est pas forcément ce que nous faisons, disons. Mais ce sont nos pensées. C'est de notre cœur, de nos sentiments, que viennent les mauvaises pensées, donc les mauvais actes. Alors on peut toujours faire de la correction d'actes, mais si on n'a pas réglé devant le Seigneur nos pensées, que ce qui est louable, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Parce que sinon, vous allez faire semblant de corriger des choses. Et le problème n'est pas que la voiture soit dans le champ, qu'elle ait fait tomber le pommier que le gars il a planté il y a 2 jours. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il avait quitté la route. Et la voiture dans le pommier, c'est la conséquence. Parce que le mot péché veut dire manquer la trajectoire, manquer le but. Nous, on règle souvent les conséquences comme pour se justifier. Comme me disait quelqu'un, pardonne-moi frère, je ne l'ai pas fait sans le faire exprès. Que le Seigneur nous aide à dire, Seigneur, je vais arrêter de me battre avec une apparence. Je veux que tu assainisses l'étage de la pensée pour que je sois libéré. Et comme je le disais hier, comme je n'arrive pas tout seul, je ferme la porte du rez-de-chaussée. C'est le Seigneur qui l'a dit là. J'entre dans ma chambre et je regarde vers l'étage supérieur, pas vers le sous-sol. Père, je te confesse tout ce qu'il y a dans le sous-sol. Et mon Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Amen. Retrouver confiance en soi. Peu importe ce que les autres pensent de nous, on peut toujours le dire. Mais faire cette démarche de dire, je voudrais savoir ce que Dieu pense de moi. Vous savez, David, dans le moment où il a pris conscience, vous savez, quand il a péché, vous connaissez l'histoire de David, hein, je ne vais pas vous la raconter, hein, mais quand le prophète lui a expliqué sous forme d'image, lui, il est, oh oui, t'as raison, là, puis bon, il faut le, hein. Et le moment où le prophète lui dit, mais c'est toi. Et parfois, on est dur avec les autres sans réaliser que nous, on fait pareil. Et c'est toi. Et là, après, David, il change sa manière et il dit, « Toi, Seigneur, sonde mon cœur et mes pensées. Regarde si je suis sur une bonne voie ou sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur le sentier de l'éternité. » Mon Dieu est extraordinaire. Il nous aime. Vous connaissez tous Jean 3,16. Mais Jean 3,16 est juste après ce verset terrible. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Ce qui a brûlé vos cœurs, ce qui a ruiné vos vies, ce qui vous a amené à la mort, fait l'objet d'un serpent qui est monté sur le bois. Regardez ce que Christ paye. Tout ça parce que Dieu dit, je t'aime. Car Dieu a tant aimé. qu'il a voulu que son fils soit comme le serpent, l'objet de la malédiction, du châtiment. Mais les premiers mots, parce que Dieu m'aime. Il a payé le prix fort. Il n'a pas permis que son fils voie la corruption. Il l'a ressuscité des morts. Aujourd'hui, il est vivant, il intercède en notre faveur. Seigneur, je voudrais que mes pensées soient captives, captives de la grandeur de ton amour. C'est ce que Paul dit. Je voudrais que mes pensées soient captives. Seigneur, saisis-moi. Que ta grâce soit sur nos vies. Pénètre nos cœurs. Sinon, c'est le sujet qu'on traite depuis 5 jours. Dépression, perte de foi, révolte, rempli sur soi. Je ne vais pas recommencer, vous connaissez. Hein, puis vous allez me dire encore, j'insiste sur les... Avec 2 réactions classiques, ou l'isolement, la contestation, on a eu des exemples, je ne reviens pas dessus, avec la notion de glissement. Vous vous rappelez le chemin qui descend, hier? Mais quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Avec ceci quand même de particulier, c'est qu'à force de résister, l'Écriture nous dit que celui qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Vous vous rappelez, quand Pharaon résistait, au moment donné, c'est Dieu qui endurcit son cœur. C'est-à-dire que il ne faut pas que la résistance, la dureté, devienne une culture de plaisir intérieur. Je ne céderai pas. Parce qu'à un moment donné, on devient prisonnier de nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide à comprendre la subtilité qui est dès l'origine désobéissance, orgueil. Vous serez comme des dieux. Il est important que nous le comprenions. Conseil pratique. Comment améliorer l'image de soi? Alors, je regarde en même temps la pendule. Je ne vais pas vous dire que j'en suis qu'à l'introduction. Non. Est-ce que vous connaissez une parabole qui n'en fait qu'une? Trois paraboles qui n'en fait qu'une, qui n'en font qu'une. C'est Luc 15. C'est moi qui fais chauffer comme ça l'atmosphère. Vous connaissez Luc 15? Vous savez, ces trois paraboles, il y a l'histoire du fils prodigue, il y a l'histoire du... Le frère, il aime bien, du bon berger qui a retrouvé la brebis perdue. Puis là, drachme. Regardez bien, pourquoi le fils prodigue est parti? Parce qu'il était insatisfait. Pourquoi la brebis a quitté la bergerie? Parce qu'elle était insatisfaite. Pourquoi la pièce de monnaie, la drachme, est partie? Parce qu'elle était inconsciente. Ou indifférente. Mais notez bien ces images. Ils ont cru combler un vide. Le fils, en dépensant, c'est bien dans la débauche. La brebis, en allant brouter dans le jardin du voisin, jusqu'aux pentes escarpées, avec tous les dangers. Dans la première parabole, il y a prise de conscience, carrefour le choix. Je réalise que chez moi, il y a du pain en abondance. Et constat, là, c'est vide. La brebis, en plein danger, elle crie à sa manière. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mots compréhensibles, elle bêle. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Mais ce que je sais, c'est qu'au moment où le fils prodigue fait une démarche, cette démarche l'amène à avoir une vision. Qu'est-ce qu'il voit? Alors qu'il avance, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le regard de son père. Vous vous rappelez le regard? Il voit le regard de son père. Et son père, il était comment devant lui? Un regard d'amour, les bras ouverts. Le miroir. Seigneur, je voudrais te regarder et essayer de comprendre comment tu me vois. Parce que si un seul instant, il avait porté le regard sur son frère, je fais demi-tour. Est-ce que vous vous rendez compte? Seigneur, quelle image je donne à ceux qui ont quitté l'Église, qui ont abandonné, qui traversent l'épreuve, le découragement, la dépression, ou qui même ont commis une erreur. Quelle image je leur donne? Celle du Père qui tend les bras et qui porte un regard d'amour. C'est encore toi? Eh bien, tu pourras dire que tu nous en as fait baver. Quel regard! Vous savez qui a le plus souffert dans la parabole du fils prodigue? Hein? C'est le veau. Il était pour rien, lui. Il a vu le serviteur arriver avec un grand couteau. Il dit, tiens, ils vont faire une fête. Il n'avait pas compris que c'était sa fête. Oh, pardonnez-moi cette petite parenthèse. Et simplement pour vous dire que si notre Père nous accueille les bras ouverts, c'est parce qu'il y a eu le prix du sacrifice. Ce n'était pas un taureau, ce n'était pas un veau, ce n'était pas un agneau, c'était son fils. C'est pour ça que je fais cette parenthèse. Rien n'est gratuit dans le pardon, mais c'est Dieu qui a payé le prix fort. Alors c'est la fête, tout change, c'est une autre image, l'image d'un vêtement blanc, l'image d'une alliance, l'image de chaussures, c'est la fête. Seigneur, je voudrais que tu me donnes cette vision de la fête, alors qu'il y a une demi-heure, c'était encore la vision des cochons, du porc et de la nourriture sale. Seigneur, ouvre ce champ de vision. Seigneur, donne-moi de voir la vision de la brebis sur les épaules du berger, qui en prend soin, qui la ramène chez lui, qui la panse, qui la soigne, qui la caresse. Donne-moi de sentir cette présence. Tu ne me tires pas par la laine, par les pattes. Mais Seigneur, quelle délicatesse tu as. Et vous allez me dire, et la drachme? La drachme? Ben, je suis interpellé par la drachme, parce que ça vaut 2, 3, allez, 4, allez, on arrondit, 5 euros. Enfin, à mon avis, ça fait 2 euros. C'est-à-dire, ça ne valait pas la peine d'inviter toutes les voisines du quartier et de faire un repas pour elles. Parce que ça a dû coûter plus que 2 euros. Alors pourquoi cet acharnement à rechercher cette pièce? Regardez l'image du père, fils prodigue. Regardez l'image du fils, le bon berger. Regardez maintenant la délicatesse de cette femme et de cette lumière qui va éclairer l'image du Saint-Esprit. Regardez, elle va éclairer l'endroit où il y a la pièce. Oh, à ses yeux, elle n'a pas de valeur. Oh, personne ne pense à elle. Oh, elle vaut rien. Mais la lumière va nettoyer un côté de la pièce. Et sur ce côté, il y a la marque du Créateur. Et sur l'autre, il y a l'identité de la personne. Et voilà ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Cette pièce était importante pour cette femme. La tradition voulait qu'à l'approche du mariage, la future épouse porte un diadème. Et il y avait sur ce diadème 10 pièces. Et si par malheur, il en manquait une, le mariage ne pouvait pas avoir lieu. Tu penses que ta pièce n'a pas de valeur. Tu fais partie du corps de Christ. Bientôt pour rencontrer l'époux. Tu as une grande valeur. Ta présence est indispensable parce qu'il t'aime. Il veut te redonner l'identité, te montrer que sur ta vie, il y a la marque du Créateur. Il t'aime. Il veut reconstruire cette identité. Laisse l'Esprit te saisir. Laisse l'Esprit te saisir. Seigneur, merci pour ta délicatesse. Merci pour l'attention que tu portes sur ma vie. Merci Seigneur parce que tu y vas avec cette délicatesse que la fragilité de ma nature. Je suis tout le temps sur la défensive. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ou pourquoi il me regarde? Et voici que ton regard est un regard d'amour. Tes bras me soulagent et ton esprit m'éclaire, mais pour me libérer de la poussière, de l'oxyde qui a terni mon identité. Seigneur, j'ai besoin de toi. Un autre miroir pour que j'aie une autre vision de moi-même. Je ne sais pas si vous connaissez une église qui était réputée pour son amour et sa foi. C'est l'apôtre Paul qui dit « J'ai entendu parler de votre foi et de votre amour par tous les saints. » Mais on en parle. Vous vous rendez compte? Alléluia. Seigneur, on parle de l'amour et de la foi de l'église de Sainte-Agne. Alléluia. Non, mais ce n'est pas une blague. Je ris pas. Vous m'avez vu rire? Dites-moi, quelle est la première lettre des 7 lettres de l'Apocalypse? Éphèse. La même. Que dit le Seigneur? Je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu sais ce qui faisait ta réputation? Tu as perdu ton premier amour. Et là, le Seigneur dit, regarde d'où tu es tombé. Alors moi, j'ai cherché parce que je dis, mais d'où est tombé Éphèse? Est-ce que j'ai pas menti? Est-ce que j'ai bien rendu toute la monnaie à l'épicier? C'est parfois, on se casse la tête. Mais l'église d'Éphèse avait 3 positions. Tu sais que ton Seigneur est assis dans les lieux célestes, il est ressuscité et il intercède pour toi. C'est écrit. C'est écrit. Éphésiens 1,15. Tu sais qu'il a acquis toutes sortes de bénédictions pour toi. C'est écrit dans les lieux célestes. Et tu sais que c'est même écrit, troisièmement, il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Il t'a donné une position d'en haut pour que tu aies une autre vision. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Regarde où tu es tombé. Tu as perdu ta foi, ta position de vainqueur. Tu mènes toujours des activités, tu viens toujours aux réunions, tu chantes toujours les cantiques, mais tu as perdu ta position de foi. C'est là où tu es tombé. C'est pas que tu commettes encore des erreurs, tu en commettras encore. Mais ta position de foi. Il y a d'innombrables bénédictions dans les lieux célestes. Christ intercède pour nous dans les lieux célestes. Et il nous a fait asseoir en nous disant, je vous fais asseoir. Mais c'est parce que je vous ai redonné vie. L'expression, ça, il nous a ressuscité. Seigneur, redonne-moi vie, comme tu l'as fait pour le fils prodigue. Mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Et si, Seigneur, il y a une odeur de mort parce que ma foi s'est écroulée, parce que mon amour s'est estompé, fais le miracle de la résurrection. Donne-moi la vie de la confiance. Seigneur, donne-moi une autre vision de ma position. Amen. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. On peut essayer d'aller jusqu'au vase. Le vase de rue. Vous connaissez ce vase? Oui. Vous savez que notre vision, elle est souvent une vision qui est faussée par la mobilisation de nos pensées. Vous voyez un vase? Oui? Mais si vous allez oublier ce vase, oubliez-le, et regardez de chaque côté, il y a un visage. Un visage. Oubliez. Le dessin ne change pas. Seigneur, je voudrais que mon visage rencontre le tien et que je vois ton visage et je vais découvrir qu'il est aussi beau que le mien. Dieu nous voit parfaits en Jésus-Christ. Amen. Et ça au travers de nos vases. Quelle dimension extraordinaire! Seigneur, pour moi c'est une évidence, c'est tel problème, il y a telle situation. Mais Dieu peut changer la vision que nous avons. Vous savez, le serviteur qui voyait l'ennemi, les chars et autres, puis quand le prophète lui a dit, écoute, je vais prier Dieu, ouvre ses yeux, et d'un seul coup, les chars de l'Éternel, donne-moi une autre vision. Donne-moi une autre vision ce soir, Seigneur, afin que par la foi je saisisse la victoire. Parce que je suis depuis des semaines, des mois, des jours à dire, oui, mais ça ne change pas, oui, mais je suis comme ça. Oui, parce que tu as la vision de ton problème. Si tu as déposé ton problème, regarde, il est vainqueur. Regarde son visage. Il reflète la beauté de ton visage. Je termine par le dernier chapitre. J'aurais tellement de choses à partager avec vous. C'est un sujet qui est assez particulier, mais tellement riche, parce qu'il y a des choses là. Vous connaissez cette jeune fille qui a dit « Je suis noire, je regarde mes sœurs et mes frères qui sont noirs de peau, et j'ai « Vous êtes beaux, vous êtes belles », mais ce n'est pas du tout le sens de ce texte. « Je suis noire, mais je suis belle. Est-ce que vous me permettez d'aller voyager dans le temps, dans le Cantique des Cantiques ?» C'est un de mes livres préférés. Vous savez pourquoi que c'est un de mes livres préférés? Quand j'étais plus jeune, on m'interdisait de le lire. Donc, je l'ai lu. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. La Sulamite s'adresse aux filles de Jérusalem qui étaient dans le palais pour satisfaire le roi. Elles se pouponnaient. Oh, elles étaient bien, comment dire, sans le dire, tout en le disant, bien ravalées sur la façade. Mais elle ajoute, « Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Donc si elle était noire, c'était noir des brûlures du soleil. Et elle dit, « Parce que les fils de ma mère, donc ses frères, se sont irrités contre moi et ils m'ont fait bosser dans les vignes, ils m'ont fait travailler dans les vignes en pleine chaleur pendant qu'eux, on ne sait pas où ils étaient, c'est pas marqué. » Puis elle ajoute, « Ma beauté à moi, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Quand on est dans une situation comme ça, il peut y avoir un drame dans la vie en disant, « Voilà où moi j'en suis, ma vie est haute quand je vois les filles du palais. Ah, quand j'en vis, quand je vois le bonheur des méchants. » Vous vous rappelez le psalmiste? Mais elle ajoute, et c'est ça qui est extraordinaire, « Je suis noire. » Peut-être la risée et le mépris des autres. Peut-être que la glace me renvoie un drôle de visage, mais je suis belle parce qu'il y a mon bien-aimé qui m'a dit 12 fois dans le livre des Cantiques des Cantiques, tu es belle, tu es la plus belle. D'ailleurs, osez faire le compliment. Puis, il le dit à elle et pas aux autres. Entre jeunes filles, je ne vous dis pas ce que ça fait. Mais je vais plus loin au chapitre 5. Et ce sera la conclusion de notre soirée. Chapitre 5, verset 2. « J'étais comme engourdi, endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Vous rappelez ? Ouvre-moi, et là, notez bien, ma sœur. Là, c'est l'étage communion fraternelle. Bonjour, sœur. Puis, étage supérieur. Mon ami. Confidence. Ma colombe. Oula. Oula. Marie qui est à côté de votre femme. Tournez-vous vers elle et dites-lui ma colombe. Elle n'ose pas. Il a osé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Un jour, il y a mon épouse qui m'a offert une tasse en hauteur pour boire le café. On appelle ça un mazagran, je crois. Et dessus, il y a marqué « Tu es le plus fort ». Oh, j'étais fier. Et je lui ai dit « Mais sur la tienne, il y a marqué quoi ?» Elle la cachait. Et j'ai pu lire, c'était marqué « Je suis parfaite ». Et regardez ce qu'il lui dit. « Ma parfaite ». Regardez, notre bien-aimé, comment il s'y prend. Il commence par le dimanche spirituel. Alléluia, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Vous comprendrez pourquoi la Sulamite va dire « Le bien-aimé me trouve belle ». Parce qu'il a une vision extraordinaire. C'est vrai ? Dieu a une vision extraordinaire. Moi, je n'avais pas vu tout ça, mais lui, le Seigneur, il a vu la sœur, il a vu la colombe, il a vu l'ami, il a vu la parfaite. Moi, je trouve ça formidable. Hein. Et il ajoute, pourquoi ? Et c'est ça qui est bien. Parce que ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Là, d'une manière prophétique, le bien-aimé nous dit, regarde, ça c'est Gethsémané, les gouttes de la nuit. Voilà à quel prix je te trouve belle. Ce n'est pas des mots en l'air. Regardez la réponse de la jeune fille. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je ? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je ? Elle est à nu. Mais c'est cela que le bien-aimé voulait. Ne nous arrêtons pas à l'aspect physique. Mais la bien-aimée est telle qu'elle est. Sans fard. Sans masque, le mot sincère, telle qu'elle est. Et voilà comment le Seigneur veut nous rencontrer, telle que nous sommes. Et au moment où on est conscient de nos limites, de nos failles, de nos erreurs, de nos défauts, ah oui, il va le voir, ah ben si vous, ah, il ne va pas rentrer. Alors, elle résiste. Elle résiste. Et au moment où elle résiste, qu'est-ce qu'elle voit ? Le bien-aimé qui passe la main par la fenêtre, comme pour lui dire, c'est ça qui doit sauter, c'est le verrou. Il passe la main par la fenêtre, il pose sa main sur le verrou, mais notez au passage, il n'ouvre pas, parce que c'est à toi de le faire, ça. Mais au moment où elle va, elle, à son tour, prendre le verrou, qu'est-ce qu'elle trouve sur le verrou ? Les gouttes de myrrhe que l'on appelle les gouttes de sang en Palestine. Une résine rouge, la myrrhe. Il a laissé sur le verrou de ta porte les marques de son sacrifice pour te dire « Suffit que tu ouvres la porte, le prix est déjà payé. » Et elle, elle attend. Et j'ai ouvert mon bien-aimé avait disparu. Alors c'est la révolte, j'étais hors de moi. Alors je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, je me retrouve toute seule. Et on retrouve là tout le schéma de la dépression. Boum ! Dieu soit béni, ça va s'arranger après. Nous sommes dans un temps de grâce. Mais n'abusons pas de la patience de notre Dieu. Ce soir, il a posé sa main sur le verrou de notre porte. Ce soir, il nous a dit, t'as vu les gouttes de la nuit ? Tu as vu mes cheveux bouclés ? Cette sueur qui tombe comme des grumeaux de sang ? Ma main est sur le verrou de ta porte, mais je ne veux pas forcer l'entrée. C'est à toi d'ouvrir, de faire le pas. Qui, ce soir, veut ouvrir la porte et dire « Seigneur, je veux avoir la vision de ta grâce. Je veux voir le regard de ta victoire. Je veux que tu m'appelles ma colombe. Je veux que tu m'appelles par mon prénom et que tu me dises « Je t'aime ». Je veux que tu me dises que je suis beau, que je suis belle, parce que tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Il est merveilleux, notre bien-aimé. Il est merveilleux, notre bien-aimé. Il veut nous accueillir dans ses bras. Il veut nous porter sur ses épaules. Il veut redonner de la valeur à notre identité. Il veut poser sa main sur le verrou de notre porte. Mais ce n'est pas lui qui va l'ouvrir. Qui veut bien dire ce soir? Seigneur, tu as tellement de choses à faire. Or, tu as tout accompli. Seigneur, je veux ouvrir ma porte. On va fermer nos yeux. J'aimerais, comme on l'a fait hier soir, permettre à chacun de se tenir devant le Seigneur. Je suis sûr et convaincu que l'Esprit à travailler nos cœurs. Qui veut dire ce soir, moi je veux ouvrir la porte de mon cœur? Peu importe la raison, et si vous n'osez pas vous lever, je vous demanderai de lever la main, et si vous osez, levez-vous. Et pas pour le faire devant moi, simplement pour dire, Seigneur, je veux prendre conscience de l'acceptation et je veux, Seigneur, m'affirmer dans ma démarche. C'est pour cela que je me lève ou je lève la main ce soir, pour que tu bénisses ma vie. Comme je l'ai demandé hier soir, parce que je voudrais qu'on prenne ce moment, j'aimerais que les anciens, les frères, se lèvent et aillent vers les sœurs, les frères, les amis. Peut-être c'est la première fois que tu es là ce soir. Et tu sens qu'il y a un vide dans ton cœur, dans ta vie. Tu as besoin que l'on t'aide. Alors simplement, tu te lèves. Ne dis pas, je l'ai fait hier. Le Seigneur t'appelle ce soir. Il veut te donner une autre image. Tu ne vois que ton vase, rempli d'amertume, de désespoir. Et ce soir, tu réalises qu'au-delà du vase, il y a son regard, il y a le tien. Et il voudrait que ton regard se croise avec le sien. Lève-toi simplement et dis, Seigneur, j'ai senti ta main sur le verrou de ma porte. Ce soir, je me lève et je te dis, je t'ouvre mon cœur. Je ne veux pas attendre pour m'endurcir, ni attendre pour qu'il soit trop tard. Je veux saisir ta grâce. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais je sais que tu vas mettre la paix extraordinaire qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas devant moi que vous vous levez, ce n'est pas devant un homme ni devant une église. C'est devant votre Seigneur. Vous savez ce qui a caractérisé la brebis? C'est quand le berger l'a trouvée, elle s'est laissée faire. Si vous pouvez résister, vous pouvez refuser. Et le berger est là, il veut vous saisir. Alors que les uns et les autres se lèvent, je vais demander à mes frères d'aller vers. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Tu vois mes frères, mes sœurs, qui se sont levés, ils s'attendent à toi, et ils ne seront pas déçus par toi. Ils ne viennent pas en disant « Mon vase est comme ça, ma vie est comme ça. » Ça y est, ils te l'ont dit, Seigneur. Ce soir, ils voudraient te dire « Regarde-moi. Regarde l'amour du Père. Regarde l'amour du Fils. Regarde la délicatesse du Saint-Esprit. Regarde ce qu'il a accompli. Et dans ce triomphe, il intercède pour toi ce soir. » Ne trouve pas l'excuse du frère, ne trouve pas l'excuse des autres. Ce soir, tu es dans ta chambre. Là, il y a ton cœur. Je ne veux pas mettre pression, je voudrais simplement te tendre la main Si je pouvais prendre votre main et vous aider à vous lever, je le ferais. Mais ce n'est pas à moi d'ouvrir la porte, c'est à vous de le faire. Seigneur, pose ta bonne main. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Seigneur Jésus. Alléluia.